Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Bonjour, donc aujourd'hui on va recevoir des représentants du collectif réfugié de Vaucluse. Alors on a en face de nous Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Brigitte.
Bonjour.
Et Almami qui peut-être viendra témoigner de sa situation s'il le souhaite en tout cas.
Bonjour.
Alors, bonjour. Alors c'est un collectif, c'est pas une association, ça veut dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau comme dans une association, c'est délibéré, enfin vous allez nous l'expliquer justement, à la fois par rapport à la structure, pour expliquer à nos auditeurs un petit peu la particularité de ce collectif, cette collégiale en fait. Depuis quand c'est né, dans quelles circonstances et ce que vous faites aujourd'hui en fait?
Oui, alors le collectif est né en 2016, lorsque les premiers migrants qui étaient à Calais, enfin les premiers réfugiés qui étaient à Calais ont accepté de sortir de Calais et d'aller en province. À ce moment-là, le gouvernement avait demandé aux différentes municipalités, aux différents maires de France, il leur avait demandé s'ils voulaient bien et pouvaient recevoir des réfugiés. Donc, le maire de Carpentras a accepté, si bien que il y a une première vague de réfugiés, surtout des Afghans, iraniens, irakiens, qui sont arrivés au logis des jeunes à Carpentras.
Il n'y a pas très longtemps, je crois.
C'était en 2016, février, je crois, 2016.
Oui.
Donc, il y a un collectif qui s'est formé à ce moment-là, de façon assez informelle au départ, pour soutenir, venir en aide à ces réfugiés qui arrivaient de Calais et qui avaient vécu quand même dans ce qu'on appelait la jungle, donc dans des conditions vraiment très difficiles. Et donc, on est venu en aide avec du soutien, au niveau du français, mais aussi pour les habits, enfin pour les aider à vivre cette à prendre un nouveau départ, etc. À ce moment-là, ces réfugiés ont accepté de quitter Calais. On leur avait promis de ne pas appliquer la directive de Dublin.
Oui.
C'est-à-dire que une fois qu'ils seraient en province, ils pouvaient faire leur démarche auprès des différentes préfectures pour des demandes de cartes de séjour ou demandes d'asile, etc. etc. La directive Dublin, Evelyne, tu peux en parler?
Oui, ça consiste à renvoyer dans le premier pays dans lequel le réfugié a été enregistré pour toute procédure de demande de séjour.
Toutes les démarches l'obligent à revenir sur ce pays. Alors, sauf si l'accueil n'a pas été extraordinaire, ça peut être compliqué.
Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que tous les pays n'ont pas la même attitude envers les réfugiés, bien sûr.
Oui, puis que, en fait, les premiers pays dans lesquels ils arrivent, c'est toujours les mêmes. Enfin, actuellement, c'est l'Italie, l'Espagne, la Grèce, enfin. Ce sont quand même des pays saturés. Et puis, dans ce cas-là, dans le cas des Afghans, Iraniens, Irakiens, ils passaient en général par la Hongrie. Et en Hongrie, vraiment, on les maltraitait.
Enfin, les conditions étaient
épouvantables. Certains ont été torturés. Enfin, ça a été quand même. Donc, ils n'avaient aucune envie de faire leur demande de carte de séjour dans ces pays-là.
Et la promesse verbale du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Bernard Cazeneuve, n'a pas été tenue. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été confirmée par écrit. Mmh. Et du coup, les préfets, d'un département à l'autre, l'ont appliquée ou pas.
De manière très inégale. Voilà.
Voilà.
Et ces réfugiés, donc, quand ils sont arrivés en 2016, ils étaient au nombre de combien à peu près?
26, je crois. 20. Je ne me souviens plus très bien.
De bonnes douzaines, oui.
Oui. Et donc, ils sont restés au logis des jeunes jusqu'à fin juin, parce que le logis des jeunes fait auberge de jeunesse pendant l'été. Et donc, le logis avait déjà des réservations pour l'été et ils ne pouvaient pas les garder sur place. Si bien qu'ils ont été dispatchés un peu dans la région PACA, je dirais, puisque certains sont lettres ont été envoyées à Marseille, d'autres à Vitrolles, à Cavaillon, et la grande majorité à Bonpas.
Oui, dont on avait entendu parler, effectivement, pas très loin. Donc, oui. Il y a aussi des personnes donc, du collectif qui s'en occupent de ces...
Voilà, alors donc, il y a des personnes du collectif qui ont continué à s'occuper de tous ces gens, qui, surtout ceux qui sont partis à Bonpas et de Bonpas à Avignon. Ils les ont suivis jusqu'au bout et puis actuellement il en arrive sans arrêt quoi. Enfin je veux dire la dernière vague comme ils disent est arrivée il y a seulement un mois à Bonpas. Oui oui. Là hier j'ai rencontré des Ivoiriens, Somaliens qui sont arrivés il y a juste un mois à Bonpas. Quoi.
Qui arrivent là directement, du coup.
Voilà, oui, non, ben, qui sont passés par Paris. Eux, ils étaient à Porte-de-la-Chapelle, à Paris.
D'accord.
Et donc, de Porte-de-la-Chapelle, on les a envoyés ici.
D'accord.
Et donc, voilà la situation. Donc, à Bonpas, il n'y a que des hommes actuellement, alors que sur Avignon, il y a des familles, des femmes seules, avec enfants, etc., et de différentes nationalités, là, vraiment.
Et alors, est-ce qu'il y a des mineurs seuls, des adultes? Alors là, sur le profil des personnes qui arrivent, on peut dire quelques mots, parce que je sais que ça fait débat. Hein,
mais, oui. Oui, bien sûr. La plupart des mineurs, comme on les appelle, mineurs non accompagnés, c'est-à-dire qui arrivent seuls, sans famille, sans parents, arrivent à Avignon.
Mm-hmm.
Souvent maintenant, enfin, tant que c'était possible, par l'Italie. Ça allait de moins en moins. Éventuellement, en ayant transité par Marseille.
D'accord.
Et là, il y a plusieurs cas de figure. Enfin, ça, c'est une politique qui est assez variable d'un département à l'autre, mais on retrouve quand même des constantes, c'est-à-dire que, d'une façon globale, on va dire, l'attitude des instances départementales est une grande défiance vis-à-vis de la déclaration de minorité.
Oui.
Donc ces jeunes sont a priori suspects de fraude.
On ne sait pas quel âge ils ont, quoi. Grosso modo, on ne sait pas s'ils ont 18 ans ou pas.
Voilà, c'est presque une position de principe. C'est de leur dénier leur minorité effective. Et donc, il y a eu toute cette pratique qui tend quand même enfin à disparaître de tests osseux.
Ben oui, c'est pourtant...
Oui, les tests osseux, il est scientifiquement, médicalement prouvé qu'il y a une marge d'erreur de plus ou moins 2 ans. Donc,
ah oui, alors on ne peut pas voilà. Non plus s'appuyer de façon...
Mais hein. Surtout que quand ils arrivent, ils ont 16, 17 ans. Donc, enfin, en général, la majorité...
Ils sont presque à la limite de la majorité. Voilà, donc, c'est ça aussi le problème.
Deux ans...
Et d'ailleurs, le traitement des mineurs arrivés avant ou après l'âge de 16 ans n'est pas le même.
De 16 ans,
oui,
on a bien
16.
Dit ça.
Les mineurs arrivés avant d'avoir complété leurs 16 ans... ont beaucoup plus de chances d'obtenir un titre de séjour durable que ceux qui sont arrivés après l'âge de 16 ans.
On considère peut-être qu'ils sont plus vulnérables, qu'ils ont besoin d'être protégés au sens de la loi, peut-être.
Oui, et c'est surtout qu'on leur donne, de toute façon, il faut qu'à leur majorité, ils aient eu au moins 6 mois de formation. Qu'ils aient commencé une formation au moins 6 mois avant d'être majeur.
Ah oui, c'est quand même assez compliqué comme situation.
C'est-à-dire que s'ils ont 17 ans et demi et qu'ils n'ont pas été encore scolarisés, parce que, bon, ils arrivent, mais le temps d'être pris en charge par l'ASE, hein, l'aide sociale à l'enfance, avant d'être pris en charge par eux, il se passe souvent plusieurs mois. Enfin, entre le moment de leur départ et le fait d'être pris en charge par l'ASE, il se passe souvent 1 an, quoi. 1 an, bon, où il y a 6 mois de voyage, mais parfois, certains, par exemple, sont arrivés en juin de l'an dernier et n'ont été scolarisés qu'en mois de mars. Enfin, c'est difficile,
ouais, c'est compliqué.
Quoi. C'est compliqué. Ils ne sont pas tout de suite pris en charge, ils ne sont pas tout de suite scolarisés, ça prend du temps. Et donc, ça prend du temps et eux, ils avancent en âge.
Oui.
Et donc, ils perdent aussi de plus en plus la possibilité de pouvoir rester.
Si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale et on reprendra après avec vos activités, ce que vous faites effectivement donc auprès de ces personnes.
Découvrez les hits de demain avant les autres. Avant les autres.
Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contre-sens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. N'est pas belle, prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime.
Associativement vôtre sur RTVFM.
Alors, nous retrouvons donc Evelyne Brigitte du collectif Réfugiés de Vaucluse. Donc, on va revenir un petit peu sur ce collectif. Hein. On a dans une première partie évoqué sa création, son origine. Et Evelyne, vous vouliez un petit peu préciser ce collectif par rapport, oui, à sa composition, son statut aussi, associatif,
voilà,
ou pas.
Alors, il a conservé le nom de collectif, bien sûr. Ouais. Et à la fin de l'année 2016, il y a eu une décision, des gens qui avaient formé ce premier collectif totalement informel, de le transformer en association loi de 1901. Donc, il, d'accord, a bien gardé le nom de collectif, mais juridiquement parlant, c'est bien une association,
c'est bien une association
loi de 1901.
D'accord.
Ceci dit, dans le statut des associations soumises à la loi de 1901, il y a la possibilité soit d'avoir un conseil d'administration au sein duquel est élu un bureau, désigné un bureau avec président, secrétaire, trésorier, et leurs adjoints éventuels, ou bien, ce qui est le cas du collectif Réfugiés, de s'organiser en tant que collégiale. Et
d'accord,
c'est donc, nous avons une collégiale de 10 membres.
D'accord, qui n'ont pas de...
Il n'y a pas de président.
Voilà, ils n'ont pas de fonction particulière, voilà, c'est
alors,
une certaine égalité.
Il y en a deux qui sont un peu plus trésoriers que les autres, quand même.
D'accord, oui, il faut quand même gérer la réalité financière, quand même.
Voilà.
Combien de bénévoles dans ce collectif ?
Alors, il y a actuellement au moins 70 adhérents, peut-être un peu plus maintenant, parce que même au départ, je vous le disais tout à l'heure, quand le collectif s'est créé, c'était des gens de Carpentras, à la faveur de ce premier CAO éphémère à Carpentras. Et puis, en essaimant à Avignon, du coup, les adhésions plus récentes se sont faites de gens qui habitent Avignon et alentour.
D'accord.
Voilà. Et aujourd'hui, des gens de Cavaillon nous contactent en disant « Est-ce que vous faites quelque chose à Cavaillon ? Parce qu'on aimerait bien aider. Voilà. » Donc, il y a des perspectives de développement encore.
Oui, hein, oui, je crois qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se proposent. Hein. Oui, on en reparlera à la fin, mais effectivement, on entend beaucoup parler de gens qui individuellement viennent demander « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Effectivement.
Il y a un double mouvement, dans la société française. Ça se retrouve évidemment dans le Vaucluse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un mouvement de, on va dire, globalement, du centre vers la droite et l'extrême droite, de gens qui rejettent l'arrivée de réfugiés. Alors après, ça prend toutes les formulations possibles, hein, je vous les épargne, vous les connaissez. Et puis du centre vers la gauche et l'extrême gauche, il y a tous les gens qui sont dans une posture plutôt d'accueil et de solidarité. Donc on retrouve les mêmes clivages ici.
Tout à fait.
Et cette posture de solidarité, elle est quand même assez nettement développée. Régulièrement, on est contacté. Notre groupe, si on va en parler, là, des bénévoles qui interviennent plus spécifiquement à Carpentras auprès des mineurs non accompagnés, pris en charge, donc placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Au tout début, on était, 8 à peu près. Aujourd'hui, on dépasse les 20 personnes. Alors, tout le monde n'est pas actif sur le même pied. Mais il y a ce grand mouvement de générosité, d'aller vers ceux qui arrivent et de chercher à les aider.
Alors concrètement, ça se passe comment quand on dit aider quelqu'un ? Bon, je sais qu'il y a des cours de français qui sont dispensés, de soutien pour aider ces personnes à maîtriser la langue.
Oui, le mercredi après-midi, on fait 2 heures de soutien. Alors ça s'adresse effectivement à ceux qui sont en collège, puisque... ceux qui sont en lycée, en général, sont internes et ne rentrent que le week-end au logis des jeunes. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, on essaie de mettre en place un calendrier, du soutien. Alors là, on est en train de, comme ça va être la deuxième année, puisqu'on avait commencé l'an dernier pendant les vacances d'été, l'an dernier, et en ayant fait un peu un bilan de nos activités, on pense organiser un peu de façon différente, avec en proposant par exemple des jours où on ferait un stage en anglais ou en maths ou différentes choses.
En complément donc de leur scolarité.
En complément, oui. Alors parmi ces jeunes, il y en a qui sont analphabètes, qui ne sont jamais allés à l'école dans leur pays. Donc pour eux, c'est quand même très très difficile de se retrouver dans une troisième, même s'ils ont un professeur de français qui fait du français langue. Seconde, langue étrangère, ça s'appelle pas FLE dans l'éducation nationale. Oui. Mais elle a quand même 30 gamins de niveaux très différents, puisqu'il y a ceux qui n'ont jamais pris un crayon et ceux qui n'ont jamais lu, à ceux qui ont eu quand même 1 ou 2 ans de scolarité.
Ou qui ont été scolarisés dans leur langue.
Non, en général, c'est en France, c'est en Afrique, c'est en français en tout cas.
Voilà. Les jeunes qui arrivent d'Afrique viennent des anciennes colonies. Donc, ils sont
tous francophones,
plus ou moins. Il y a des francophones passés par l'école, voilà. Et il y a des francophones analphabètes.
D'accord. Voilà. Et puis, francophones, par exemple, au Mali, si on n'est pas allé à l'école, on ne parle pas vraiment français. Si on est d'un village... reculer, etc. C'est le français, quand même, la langue qu'on utilise dans les grandes villes et puis à l'école.
Qui néanmoins s'apprend. Voilà.
Oui. C'est pas la même chose. En Côte d'Ivoire, oui, ils sont vraiment francophones et puis ils sont beaucoup plus scolarisés. Ça dépend vraiment des pays. Après, on a aussi des jeunes qui viennent du Bangladesh et puis Et eux, bon, ont été scolarisés, savent un peu d'anglais, donc les situations sont très, très différentes. Oui. Enfin, je veux dire, chaque jeune a un parcours spécifique et c'est vrai qu'il faut s'adapter à ce parcours. Et puis, bon, on imagine bien que au sein d'une classe, enfin, un professeur avec 30 élèves,
ouais, c'est pas possible.
C'est vraiment très difficile. Enfin, je voudrais pas être à sa place.
D'où ces petits groupes particuliers qui permettent.
Ben, nous, on fait presque du un par un, quoi.
D'accord.
Oui, je voulais compléter puisque Brigitte parlait des jeunes qui sont hébergés au logis des jeunes du Comtat.
Oui.
Mais il y a aussi tous ceux qui sont plus récemment arrivés à la maison d'enfants à caractère social, l'Arc-en-Ciel.
Oui.
Et qui sont logés soit à l'Arc-en-Ciel à Serres, à côté de chez vous, soit dans les appartements que l'Arc-en-Ciel gère à Carpentras. Et pour vous donner une idée, les premiers jeunes arrivés l'an dernier étaient 12.
Oui.
Aujourd'hui, dans ceux que nous connaissons, parce qu'il y en a peut-être des que nous ne connaissons pas encore, ils sont au moins 36 ou 38, pratiquement 40.
Bon, c'est compliqué alors à s'occuper de tous ces enfants, tous ces jeunes, effectivement. Et au-delà des cours de français, c'est quoi vos actions? En quoi ça consiste?
On avait démarré l'an dernier déjà par on a récupéré des vieux vélos. Et grâce aux bonnes volontés et au savoir-faire de bénévoles, plusieurs vélos ont été retapés et on les a mis à disposition des jeunes.
D'accord.
Et cette année, on en a récupéré encore quelques autres, de nouveau mis à disposition aussi. On aimerait bien, parce que alors c'est pas des vélos neufs, hein, mais ils sont pas très résistants et on aurait dans l'idée de monter peut-être un jour un atelier de réparation et d'entretien de vélos.
Voilà. D'accord, ça pourrait être un volet projet, effectivement, oui, à développer dans votre association.
Oui, et puis pour que s'investissent aussi dans la réparation des vélos. Enfin, l'idée, c'est aussi de les responsabiliser, pas de donner comme ça.
Oui, il n'y a pas que
non,
ça.
Non, c'était pas du don, c'est de la mise à disposition. Voilà. D'ailleurs, ils se les passent entre eux. Il n'y a pas autant de vélos que de jeunes. Donc, quand ils ont besoin d'un vélo, ben voilà, ils prennent un des vélos disponibles.
D'accord. Bon, bah, je vous propose de faire une petite pause et dans une dernière partie, on reviendra un petit peu sur toutes les activités du collectif.
Ici, on vous fait vivre les plus beaux souvenirs. Beaux souvenirs. Are you ready? Jitterbug. 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 You can't put boom and boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. It goes a bang, bang, bang till my feet do the same. But something's bugging me, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming but I should've been with you instead. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. Sunshine brighter than Doris Day. You turn a bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beats per minute never been the same. Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. Don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up.
dance until tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home instead.
On retrouve donc Evelyne et Brigitte du collectif des réfugiés. Donc dans notre deuxième partie d'émission, on commençait à évoquer donc les différentes activités, dont les cours de français. Mais vous évoquiez aussi la possibilité de développer autre chose. Il y avait un petit travail qui s'était engagé au niveau des vélos pour travailler sur la mobilité, etc. Et pourquoi pas un atelier réparation, c'est ça ?
C'est dans l'idée. Après, il faut trouver où, avec quels moyens.
Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez un local pour
mais on
ça
y travaille.
Ou...
Non, on travaille. On y réfléchit, on y travaille. Mm. On essaie de nouer des partenariats. Maintenant, la position dans laquelle on se trouve, on est quand même consolidé au bout d'un peu plus d'un an de fonctionnement auprès des jeunes. Je parle du groupe de soutien à Carpentras, hein, auprès des mineurs non accompagnés. Ça nous donne envie de nouer des partenariats plus important et plus dans la durée. Ça, tu peux en parler, Brigitte, sans doute.
Oui, donc on a un partenariat avec l'association Grain de Lyre, qui est sur l'avenue du Mont Ventoux, une association qui intervient beaucoup dans les collèges, dans les centres sociaux, etc., auprès de jeunes qui sont très éloignés, d'un public très éloigné de la lecture, etc. Et donc, le samedi matin, il y a un de nos collègues qui fait du soutien dans les locaux là, de Grain de Lyre. Et le samedi après-midi, on a une permanence pour les jeunes qui souhaitent poser des questions, parce que ces jeunes aussi ont tous besoin de faire des stages. Alors, quand ils sont en troisième, c'est des stages d'observation, mais après... En CAP, ben c'est des stages obligatoires, etc. Et donc, ils viennent nous voir quand ils ont un besoin, enfin, quand ils ont des inquiétudes. Des fois aussi, c'est des problèmes médicaux, etc. Enfin, voilà. Alors, on ne se substitue surtout pas à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. On essaie... Enfin, ils considèrent qu'on est quand même partenaire et qu'on est là en complément.
En complément. L'aide sociale à l'enfance a une mission et vous venez en appui.
Voilà, et nous, on vient en appui. Et donc, c'est vrai que pour les jeunes, c'est souvent plus facile de nous voir que de voir leurs référentes qui ont énormément de jeunes à gérer et donc qui ne sont pas toujours si disponibles que ça. Et par ailleurs, on a aussi un partenariat avec l'Arc-en-Ciel. Donc, et là, oui, avec les éducatrices de l'Arc-en-Ciel, on a établi un contact direct et très bienveillant. Et donc, par exemple, quand les jeunes de l'Arc-en-Ciel ne peuvent pas venir au soutien, elles nous appellent, elles nous disent « bon, aujourd'hui, ils ne seront pas là ». Enfin, il y a vraiment un dialogue qui s'est créé et qui est... très très important quoi.
Donc ça veut dire que vous êtes reconnu,
voilà,
que vous avez votre place.
Ça fait un an qu'on travaille quand même d'arrache-pied sur Carpentras. Et donc voilà. Et par ailleurs, bon, aussi bien pour les mineurs que pour les autres, c'est vrai que le collectif s'est toujours préoccupé des vêtements, des chaussures, de voir quels étaient leurs besoins en matière d'habits et de choses comme ça.
Mais il n'y a pas aussi un rôle au niveau de l'hébergement? Je crois qu'il y a des bénévoles qui arrivent à héberger des personnes, non? J'avais entendu
parler. Alors, au niveau des mineurs non accompagnés, alors il y a des parrainages qui
des
se
parrainages,
font.
Des parrainages, oui, pardon, c'est ça le vrai terme.
Et oui, on est deux familles, là, dans notre petit groupe de soutien à Carpentras,
oui.
À parrainer des jeunes.
Alors, ça consiste en quoi, parrainer?
Faire une demande à la juge des enfants du TGI d'Avignon, et une demande formelle,
hein, oui.
Parce qu'on a déjà établi des liens particuliers et privilégiés avec l'un ou l'autre de ces jeunes. Ça se matérialise par une ordonnance de droit de visite et d'hébergement.
Voilà, donc concrètement dire
que, concrètement, on peut recevoir le jeune, on peut l'emmener en déplacement, pas au-delà normalement des frontières du département, toujours en prévenant quand même, au préalable donc, oui. Les services départementaux.
Ouais, d'accord. Donc ça, il y a quelques oui, jeunes qui en oui. ont bénéficié.
Et les services départementaux sont demandeurs hein, d'augmenter le nombre de familles disposées à
s'occuper de jeunes. Oui, ça serait intéressant. En même temps, c'est, par rapport à l'insertion, je pense que c'est une démarche intéressante.
Oui,
d'être dans une famille plutôt que d'être dans une institution.
Alors non, l'hébergement continue. Moi, je suis mamie, marraine, on va dire. Et je n'héberge pas pour l'instant.
Ah d'accord.
Mais de temps en temps, ben voilà, on fait des trucs ensemble et voilà, ça permet de... Voilà, c'est une forme d'insertion.
Pour une ouverture sur autre chose, oui, tout à fait.
Sur la vraie vie, voilà. Mmh,
tout à fait,
ouais. Sortir un peu du confinement dans un lieu d'hébergement donné. Voilà, alterner l'internat au lycée professionnel et le lieu d'hébergement collectif, ben voilà, ça donne un autre aperçu.
Tout à fait. Vous avez des projets particuliers, même si on sait que ce genre d'initiative, on aimerait que ça ne soit pas trop pérenne. Mais à court terme ou par rapport au souhait de voir venir d'autres bénévoles.
D'une façon générale, tous les gens qui ont envie de faire quelque chose parce qu'ils se rendent bien compte que la situation des réfugiés au sens large, mineurs, majeurs, n'est pas très bonne et qu'elle risque de se compliquer davantage avec l'application de la nouvelle loi Asile et Immigration, ben voilà, tous les gens qui ont envie d'aider, d'intervenir, de soutenir, d'apporter leur solidarité, de témoigner voilà, de leur présence et de leur bienveillance, voilà, ils peuvent contacter le collectif Réfugiés.
Alors concrètement, il y a un site, il y a un téléphone, il y a un
référent.
Alors
il y a une adresse mail.
Oui, ouais. Vous pouvez nous la donner.
Tout attaché, sans accent, collectif. Réfugiés au pluriel conta@gmail.com.
D'accord. Et puis un téléphone.
Et le contact d'une des membres de la collégiale, oui. Louise, 04 90 63 49 00.
Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie.
Merci à vous.
Au revoir à Brigitte et au revoir à vous aussi.
Merci et à bientôt.